Voilà, Joël, merci beaucoup Gilles et Philippe. Toujours passionnant de t'écouter et de voir la transversalité qu'il y a. C'est pour ça que ça pouvait se faire dans un sens comme dans l'autre pour arriver au même cheminement, aux mêmes questions. Alors peut-être qu'on va y mettre aussi une pensée derrière des mots que notre maître et seigneur a prononcés. Hein, recentrer sur le Christ aussi ses propos. Donc peut-être apporter un éclairage. J'ai la grâce depuis bientôt plus de 8 ans maintenant d'être aumônier international en milieu sportif accrédité dans les grandes compétitions internationales, que ce soit pour les mondiaux d'athlétisme, les Jeux paralympiques, Jeux olympiques, mondiaux et Europe para-athlétique. Dans le rugby aussi, et d'accompagner pas mal de footballeurs professionnels, mais aussi des rugbymen. Et je salue Matt qui est parmi nous, qui est un Nouveau-Zélandais qui a choisi de venir en France depuis plusieurs années pour accompagner les rugbymen, à la fois anglophones mais aussi francophones. Et on est sur une création de poste d'aumônerie dans un club de rugby à 13. Donc vous voyez, il y a de l'espoir, il y a des choses qui bougent en France. Et j'aurai l'occasion sûrement d'en parler. Mais je veux pas, je veux resituer le propos de la conversion. En fait, finalement, ce qu'on se rend compte, et à travers ce que Philippe partage, c'est que le sport est devenu plus grand et plus important que ce qu'il aurait dû être. Enfin, finalement, le sportif, on en a fait un être extraordinaire, exceptionnel, et on l'a placé au rang du divin. Et on remercie le journal L'Équipe qui, quand on manque d'ouvrir nos Bibles et qu'on ouvre le journal à la place, on est souvent rappelé par quelques métaphores qui nous renvoient au divin. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire avec humour dans ce temps de présentation. Alors, je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore. Je ne sais pas si Gilles, tu les fais rentrer. Si ça va marcher, j'aimerais voilà, nous dire. Pardon, mon son a été coupé. Dans le sport, on aime bien parler d'éternité, d'immortalité, de bonheur éternel, et on aime bien faire des unes comme ça. Et il est important de replacer les choses en perspective parce que Philippe nous a rappelé aussi que bah, une performance sportive prenait fin à un moment donné, un record allait être battu, et finalement, il ne va pas rester immortel ou éternel bien longtemps. Et on est bien d'accord sur une pensée avec Philippe, c'est que dans le sport, comme dans la vie, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Effectivement, si on va sur les stades les week-ends, on va voir que beaucoup rêvent de devenir professionnels. Mais malheureusement, la route est longue, le chemin est sinueux et difficile, et il y aura pas mal d'obstacles. Et souvent, ça peut être nous mettre en situation d'échec. Alors, on peut vite être détrôné, et Philippe sait de quoi il s'agit quand on fait de l'athlétisme et qu'on bat des records. Notre record peut vite tomber, même un jour ou une semaine après. Contrairement peut-être au football, quand on est champion du monde, on l'est pendant 4 ans. Ça dure un petit peu plus. Dans l'athlétisme, ça peut être très, très éphémère. Et ça nous pose des questions sur quoi on fonde notre identité, comme le disait Philippe, le fait qu'on peut être détrôné très facilement. Alors Jésus nous lance 2 invitations, hein. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Qu'est-ce qu'il veut bien vouloir dire par cela? Est-ce qu'il nous invite à lui laisser le trône de notre vie, à détrôner notre orgueil, notre propre volonté pour que lui siège? Et il nous interpelle sur le fait que à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et il nous interpelle dans ce même passage que finalement, à quoi ça sert de s'amasser des médailles, des trophées, de l'argent, tout ça va rouiller Et on se rend bien compte que même les plus grands champions, quand ils partent, et plusieurs nous ont quittés dernièrement par des tragédies, on voit que la question du suicide touche les sportifs aussi, et ben, ils repartent sans leur trophée. Vous voyez qu'un grand champion comme Michael Phelps, qui a remporté de multiples médailles d'or aux Jeux Olympiques, qui dit que, il a pensé plusieurs fois au suicide au cours de sa carrière. Il parle du choc post-olympique où à chaque fois après une Olympiade, c'est la descente aux enfers. Il se sentait vide et il le dit dans un très beau documentaire qui, à ma grande déception, n'est pas sorti en français, qui est sur HBO et qui s'appelle Plus que de l'or, il me semble, où il dit finalement, gagner ou perdre après une Olympiade, j'étais dévasté. On voit que Alison Pino, c'est pas très vieux, elle a 32 ans, elle a gagné les Jeux Olympiques, et elle a dit, je me sens vidée. On a traversé, vous voyez, mais la période après les Jeux Olympiques est compliquée, on ne peut pas savourer notre médaille car le championnat reprend très vite. Au retour, on est pris dans une machine à laver, on est traversé par différentes émotions, la fatigue physique et mentale prend aussi beaucoup de place, mais on n'a pas le temps de faire le vide ni de se régénérer pour mieux repartir. Paradoxe, qu'est-ce que veut dire faire le vide? En fait, finalement, peut-être qu'elle veut dire de refaire le plein. Aujourd'hui, je me sens vidé. J'ai l'impression de tout subir, d'être là sans être là. Je n'ai pas pu recharger les batteries ni me laisser traverser par mes émotions. Donc, on voit bien que finalement, même les plus grands champions, ceux qui gagnent des médailles, ça ne fait pas tout. Et finalement, ça ne les comble pas. Et j'ai le privilège d'accompagner un footballeur qui a été champion des États-Unis et qui a vécu la même chose. Et que finalement, c'est au sommet de sa gloire, Aurélien Collin, en étant champion des États-Unis, en ayant les télés de Canal+ qui faisaient un reportage sur lui, qu'au soir de cette finale, en se retrouvant seul, il a réalisé qu'il y avait encore un vide et que ce vide, Dieu voulait le combler. Tel Blaise Pascal qui nous lançait cette invitation, il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Et pour Aurélien, ça a été un changement de cap dans sa vie. On pourrait dire qu'il y a une reconversion même à l'intérieur de sa manière de pratiquer le football. Il y a eu un changement de mentalité, changement de motivation. Et ce qu'il a eu à subir en vieillissant dans sa carrière, je pense que s'il n'était pas devenu chrétien, il aurait eu du mal à le vivre et à accepter d'être un peu moins souvent titulaire, un peu moins souvent être mis en avant, parce que c'est quand même difficile quand on ne peut pas jouer régulièrement et que notre âge avance. Mais parce qu'il y a eu un travail sur son identité et sur ses motivations qui a été fait. Alors c'est un peu l'interpellation que je veux nous lancer ce soir parce que plusieurs l'expriment dans différents sports. Et pour faire la transition sur ce que tu disais, Philippe, là c'est Raphaël Poulain qui a été rugbyman et qui a écrit un livre « Je ne suis pas Superman ». Alors j'ai lu son livre, je vous invite à le lire. Ce qui est intéressant, c'est que il a été dans une école avec des sœurs, mais il n'a pas trouvé la foi, il a même rejeté ça. Et on trouve de plus en plus de sportifs qui ont pu avoir une éducation. Alors, on aura la même chose dans les églises évangéliques aujourd'hui, où on n'a pas su peut-être, où les gens n'étaient pas disposés prendre soin à un moment donné. Mais Raphaël Poulain, c'est quelqu'un pour qui je prie et j'espère qu'il découvrira la vérité de l'évangile. Et voilà, vous voyez ce qu'il dit. Il s'est plongé dans la drogue, l'alcool, à l'issue de sa carrière. Il y avait déjà des prémices avant. Et il dit, par rapport à la reconversion, l'anticipation par rapport à ce que Philippe aussi disait, le rugby de haut niveau m'a infantilisé, maintenu hors du monde réel. Je n'étais qu'un gosse dans un corps de grand. Peu traité, je suis devenu vulnérable. Donc là, ça nous parle aussi de ce que Jason disait, de cette bulle. On est dans notre entre-soi, on nous dit tout ce qu'on doit faire. Souvent, on nous dit qu'il faut prendre tel train, tel avion. Tout est agencé. Et finalement, quelle est la place à la liberté, à l'épanouissement et à voir en dehors de ce contexte quand finalement tout marche bien pour nous. Alors, si on pourrait faire ce parallèle qu'on aime bien faire avec Philippe sur le fait que, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, que étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie du sportif, à la vie de l'athlète de haut niveau. Il y en a peu qui la trouvent, il y en a peu qui vont jusqu'au bout parce que ça demande aussi des sacrifices, ça demande un engagement. Mais plus que rester sur le sport, j'aimerais nous interpeller sur le fait que, comme l'a dit Philippe, c'est un sportif, c'est pas parce qu'il a une carrière extraordinaire, exceptionnelle, qu'il est un être exceptionnel. Il a aussi des besoins profonds, il a une quête de sens et aussi il a besoin d'une guérison intérieure et surtout d'une réconciliation avec Dieu. Parce que le sport ne peut pas nous sauver. Le sport peut être un formidable moyen d'ascenseur social. Il peut nous tirer d'une situation précaire pour nous amener sur les toits du monde avec beaucoup d'argent, mais il peut nous façonner dans notre caractère si nous manquions de confiance, si nous avons besoin d'affirmation de soi. Il peut nous aider peut-être à nous exprimer en public. Si nous n'avions pas la parole facile, il y a des media training, il peut nous aider à faire preuve de résilience, mais le sport n'a pas les paroles de la vie éternelle. Le sport est limité, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée en disant que l'exercice physique est utile, mais il est limité, alors que l'attachement à Dieu est utile en toute chose pour le temps présent et pour l'avenir. Donc la question de l'éternité se pose, et pour le sportif, finalement, où sont les clés du paradis? Où sont les clés de la vie éternelle? Et c'est en ça qu'on doit apprendre à leur amener Jésus, à leur proposer une espérance. J'aimerais vous partager et vous inviter à rechercher sur YouTube, il me semble que ça doit y être, ou peut-être sur le replay de Arte, s'il y a encore, ce magnifique documentaire qui s'appelle Le sport, le revers de la médaille, où Claire Carrier, psychiatre et médecin du sport, dit les sportifs ont tout donné, c'est l'abnégation. Ils se sont complètement vidés au profit de ce qu'on leur a demandé. Ils sont dans le mur, ils ont réalisé des choses, d'accord, mais so what? Pourquoi? Ils ont perdu leur épaisseur humaine. Ils ne sont plus qu'une image. Ils portent leur carapace musculaire, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a du vide qui est du néant. S'ils passent à l'acte au niveau de la mort, c'est qu'ils sont dans un état de mort psychique, de mort spirituelle. C'est violent ce qu'elle dit. Et ce n'est pas un pasteur ni un aumônier qui le dit, c'est une psychiatre, médecin du sport qui fait ce constat et qui parle de mort spirituelle. Alors oui, il y a un défi qui nous est lancé pour nous avec Paris 2024, mais plus que Paris 2024, à ramener de l'espérance, de ramener de la vie dans ce monde du sport. Et tout à l'heure, cette question se posait de quels sont les organes qui peuvent porter une voix, mais je pense que si nous sommes là ce soir réunis, c'est que nous avons une voix prophétique à porter dans le monde du sport, dire qu'il y a plus, il y a autre chose à vivre, et c'est chacun dans notre engagement, dans les différents organes sportifs, que nous pouvons faire bouger les choses pour dire stop à la multiplication des matchs. Stop à ce projet quelque part, où est l'Église pour dire stop à ce projet de Coupe du Monde de football tous les 2 ans. Mbappé s'est fait magnifique ambassadeur de dire à un moment donné, on va pas pouvoir continuer comme ça, ou alors légalisons le dopage. Bon, dans certains sports, on l'a fait, hein, on a autorisé certains produits. On peut se poser toutes ces questions. Et là, la question de l'intégrité physique est en jeu, puisque nous, en tant que chrétiens, le corps a une place primordiale, très importante. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'on fait de ce corps? Qu'est-ce que l'on fait de ce corps qui sera appelé à être glorifié, à être ressuscité au jour du Christ, de son retour? Qu'est-ce que l'on fait de ce corps? Et ça nous invite à nos motivations, et Jésus nous laisse ces invitations. Alors vous verrez que ce soir, je nous ai invités, enfin, ou plutôt Jésus nous invite à réfléchir à travers l'évangile de Matthieu, qui a été souvent cité. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quelles sont nos motivations profondes? Nous pouvons voir des sportifs qui ont détruit leur corps pour obtenir une médaille d'un jour, mais qui ont disparu le lendemain, leur corps étant brisé et ne pouvant plus faire de performance. Finalement, qu'est-ce qui leur reste? Alors, c'est là que l'on peut faire une proposition. C'est un service d'aumônerie. Et un aumônier du sport, c'est une personne qui prodigue un soin, alors on va dire pratique ou pastoral. C'est-à-dire que on est là pour servir les sportifs, apprendre à les aimer pour qui ils sont et pas pour ce qu'ils font. Ça, c'est la grande difficulté pour un sportif. On est adulé ou on est reconnu dans la rue pour ce qu'on a fait et pas pour qui on est. Alors qu'on l'ait fait en bien ou en mal, c'est ce que les gens retiennent. Et d'apporter un soin spirituel avec permission pour le bien-être holistique de tous ceux qui en sont engagés dans le sport. Alors, ça me permet, je n'ai pas présenté notre association qui s'appelle Holistic Sport pour rebondir sur ce que Philippe disait, sur le fait de prendre le sportif, plutôt l'individu qui pratique un sport dans sa globalité, dans toute son humanité, corps, âme et esprit. C'est ça que veut dire le mot holistique. Et prendre en considération tous ses besoins. Parce que on le sait, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais juste vous donner quelques petits mots de témoignage. Ce que je mets là, c'est un peu ce que Philippe a pu aussi traduire dans d'autres mots, mais le sportif est soumis à la pression de tous les côtés, et même des côtés les plus proches, de sa propre famille. On voit combien de familles se déchirent, notamment sur les questions d'argent, de contrat. Et que toutes ces pressions, à un moment donné, créent de la dépression. Et il peut y avoir des addictions, et on a énormément de sportifs qui malheureusement sont addicts à l'alcool, à la drogue, à des nouvelles drogues comme la snooze, une forme de tabac qui n'est pas légalisée en France, mais que beaucoup de sportifs utilisent, qui est très commun en Angleterre, en Allemagne. D'autres sont addicts aux jeux de paris, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux. Tout ça, en fait, pour combler ce vide et combler ce manque. Et quel que soit notre âge, quel que soit notre sport, finalement, ça renvoie à des questions identitaires. Et je vous laisse ce témoignage de Chantal Petitclerc, qui a été athlète, qui est athlète, enfin, qui a été athlète canadienne, 14 fois championne paralympique. Donc, c'est pas rien en athlétisme, et qui dit, quand elle a pris l'arrêt de sa carrière pour basculer dans cette reconversion, tu te retrouves en face d'une crise identitaire où tu te dis, pendant 20 ans et plus, je me suis défini comme quelqu'un qui gagne des médailles, quelqu'un qui performe. Il faut faire le deuil de tout cela. Et c'est pour ça qu'avec Holistic Sport et avec l'équipe d'Aumônier, on veut se tenir aux côtés des sportifs à différents moments de leur carrière. Souvent, on peut être là au sommet de leur gloire et ça peut être gratifiant pour nous en tant qu'aumôniers. Et il y avait le risque d'être vu comme un gourou que notre sœur partageait tout à l'heure et il faut qu'on fasse attention à ça. Mais sur l'après-carrière, il n'y a plus grand monde. Un sportif, pendant sa carrière, il peut avoir une dizaine de personnes qui sont à ses petits soins. L'ostéo, le pédicure, le kiné, le diététicien, le nutritionniste, le préparateur mental, le coach, l'adjoint du coach, l'intendant, l'agent, toutes ces personnes sont autour. Et du jour au lendemain, plus personne. Donc c'est très très dur. Et c'est là que nous pouvons faire une différence. Parce que en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, nous sommes là pour eux, quelles que soient les circonstances de leur vie, et nous sommes appelés à être à leur côté. Donc c'est l'interpellation, mais ça nous amène, voilà, à une présence, à être là à leur côté. Je vous présente rapidement, avant de finir ma conclusion, puisqu'il me reste 1 minute 30, 2 minutes. Voici un exemple d'aumônerie aux Jeux paralympiques, avec une salle où il peut y avoir des temps de louange, des temps de prière, des temps d'études bibliques. Voici le lieu où on était à Rio, avec une équipe d'aumôniers interreligieux, avec des bouddhistes, des hindouistes, des musulmans, des chrétiens catholiques et protestants. Voilà ce qui risque d'y avoir à Paris 2024 et pour lequel nous devons nous préparer. Pour nous y préparer, dès maintenant, nous avons mis en place des lignes d'écoute pour que ces sportifs puissent vider leur sac s'ils en ont le désir, quelle que soit leur croyance, leur religion, avoir l'opportunité d'une présence en ligne, puisque avec le Covid, beaucoup de restrictions ont été apportées. On a quelques appels, on continue de maintenir ces lignes, on les avait mis pour Tokyo et on les a fait perdurer. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut proposer. Et l'autre chose, c'est des ressources et des témoignages que l'on peut partager, comme je vous disais, avec Aurélien Collin. Alors, ce qui m'invite à une conclusion et à deux points d'action et de vigilance pour nous interpeller sur finalement la conversion, la nécessité de la conversion du sportif suite à cette interpellation de Saint Augustin qui fera cette prière, qui dira à Dieu, notre âme est sans repos jusqu'à ce qu'elle se trouve en toi. Le sportif, comme à travers Alison Pineau, cherche le repos, est constamment fatigué, mais ce repos, il ne pourra le trouver réellement qu'en Christ, et Christ veut leur offrir ce repos. Marie Pierce aura dit au cours de sa carrière, on parlait de tennis, la seule française, ou dernière française plutôt, à avoir gagné Roland-Garros alors qu'elle était chrétienne. Et avant ça, elle lui disait qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie, il y avait ce vide. Et c'est à travers le témoignage d'une partenaire sur le circuit qu'elle a découvert le Christ. Alors, pour faire le lien entre conversion et reconversion, je conclurai en disant que à un moment donné, de toute manière, le sportif ne va pas pouvoir continuer ad vitam aeternam. Il va être rattrapé par ses performances physiques. Et la reconversion du sportif passe par l'acceptation de qui il est et de qui nous sommes, puisque nous sommes sûrement sportifs ce soir, de qui nous sommes en dehors du sport, ce que Philippe a dit dans l'identité. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu et le sportif a besoin de se rappeler qu'il a été créé à l'image de Dieu, qu'il a été équipé de dons et de talents qui lui ont été donnés comme des cadeaux de grâce, des dons de grâce. Ça ne lui appartient pas. Aimé de notre Créateur, et nous sommes appelés à embraser une nouvelle identité qui s'enracine dans la mort et la résurrection de Christ. Quand le sportif parle d'un deuil à faire sur sa pratique sportive dans sa reconversion, finalement, c'est comme si l'apôtre Paul lui susurrait à l'oreille: si Christ est ta vie, mourir est un gain, qui fait écho à cet appel du Christ que j'ai cité avant. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un vaste programme, un programme d'humilité et une école pour lequel la contrainte que le Christ nous donne est un joug doux et léger. C'est une invitation en tant que sportif, à ne pas s'ériger en tant que Dieu, en tant qu'être surpuissant, en tant qu'être surhumain. Mais comme le dit Michael Phelps, nous ne sommes finalement que des humains. Et je rajouterai des humains qui ont besoin d'être réconciliés avec le divin, avec leur créateur. Et c'est notre mission de considérer que les sportifs ont aussi besoin de l'évangile. Et je laisserai cette interpellation finale aussi à la lecture de l'épître de Jacques au chapitre 2. Il y a aussi une sagesse à avoir pour ne pas mettre dans l'Église ces sportifs sur un piédestal, mais au même niveau que les autres. Ne pas faire de favoritisme envers eux au sein de l'Église, mais de les considérer comme les autres. Et de ne pas trop les mettre en avant parce qu'ils ont besoin, quand ils viennent dans un lieu de culte, de se ressourcer et non pas de faire des selfies et de signer des autographes. Parce que l'Église est un lieu de ressourcement où la seule star, si je peux me permettre de le dire, c'est le Christ et c'est lui à qui doit revenir toute l'adoration. Et je finis avec cette parole qui m'a beaucoup touché de l'apôtre Paul aux Galates pour ce défi que notre sœur nous partageait, qu'elle aurait tellement aimé avoir une carrière en Christ plus longtemps. Et c'est ce à quoi on travaille avec ceux qui sont là, les plus jeunes, pour qu'ils puissent expérimenter Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Et je crois que la meilleure source des motivations en tant que sportif et en tant qu'être humain, c'est de se savoir aimé de Dieu pour pouvoir aimer son prochain sur le terrain, pour ne pas passer pour ne pas faire de raccourcis, comme Philippe le disait dans les interpellations, comme la tricherie ou gagner à tout prix. Je pense que quand l'amour est notre motivation, c'est l'amour qui triomphe plus que le résultat. Merci pour votre attention.
Voilà, merci Joël.